Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport en direct du Mans, une émission exceptionnelle ce matin jusqu'à midi autour du Grand Prix de France MotoGP, le 1000e Grand Prix de l'histoire, un Grand Prix de France qui fête également ses 30 ans. C'est un immense rendez-vous qui nous attend cet après-midi à 14h. Vous allez le suivre en direct en intégralité sur RMC. Toute l'équipe est installée chez Pramac Racing, l'écurie de Johan Zarco, toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Renaud Longuèvre, Simon Dutin. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour de notre champion français Fabio Quartararo, qui n'y arrive pas avec sa moto, et il le dit, doit-il quitter Yamaha? Ce sera notre question. Et puis 11h, nous aurons l'honneur d'accueillir dans le studio RMC, ici au Mans, la légende de la moto, le roi Ago, Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde, le plus grand pilote moto de tous les temps. Mais une autre légende est avec nous dans le studio RMC. Jackie X, légende du Mans, surnommé Monsieur Le Mans pour notamment ses 6 victoires lors des 24 heures du Mans. Avec nous, nous avons l'honneur de vous recevoir. Bonjour Jackie.
C'est un bonheur partagé, bien sûr, avec vos auditeurs aussi.
Oui, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Ça vous fait toujours quelque chose de venir ici, au Mans, après toutes ces années?
Mais oui, fatalement, parce que Le Mans fait partie de ma vie. Vous savez sûrement que si vous demandez à un pilote de... s'il peut gagner Le Mans une fois, il est prêt à signer un contrat acceptant ça, il vous dira oui. Quand vous avez gagné 6 fois, effectivement, il y a... c'est un peu comme aller au casino. Et quand vous gagnez 9 fois, comme Tom Christensen, par exemple, qui est super pilote, super élégant, super... oui, bien sûr, le recordman.
Qui vous a piqué le recordman.
Les records sont là pour être battus, globalement. Mais celui-là, en tous les cas, de 9 victoires au Mans, il ne le sera pas. À mes yeux, c'est une chose absolument impossible. Parce que vous ne pouvez pas aller au casino et gagner 9 fois d'affilée et tirer les numéros en plein.
Mais je rappelle évidemment que vous avez aussi été coureur Formule 1, 114 courses à votre compteur, 8 victoires en Formule 1. Revenons sur ce circuit.
Victoire sur le Paris-Dakar aussi, il a tout fait.
Exactement.
Il a gagné dans toutes les courses.
Totalement éclectique, Jackie X. Pourquoi il est spécial ce Grand Prix? On peut répondre à cette question ou pas? Le Grand Prix du Mans.
Le Grand Prix moto?
Non, pas forcément. Enfin, en tout cas, ce circuit, pardon.
Ah, oui. Parce que c'est 2 choses différentes.
Oui, bien sûr.
Vous êtes là pour la moto aussi.
Et on revient pour les 24 heures dans un mois.
On est au Bugatti. Et puis l'autre circuit, il fait quand même les 13 ou 14 kilomètres. Et puis il est particulier parce que c'est l'histoire de l'automobile et de la course automobile. Et aussi le développement de la mobilité, de la technique, enfin... c'est plein d'exploits. Le miracle du Mans, de ses 100 ans, c'est d'avoir trouvé une série de générations successives, tant du côté des spectateurs que de l'organisateur, que du constructeur et des pilotes. 100 ans, c'est un chiffre, je veux dire, dans la pérennité, dans l'évolution de l'automobile. C'est la course à gagner. Ouais. Et ça reste la course.
Alors,
à gagner,
oui.
Plus que jamais.
Est-ce que ça reste encore la course à gagner? C'est vrai qu'à votre époque, Jackie, gagner les 24 heures du Mans, c'était pour tout pilote automobile, c'était le graal absolu. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui, alors que la Formule 1 a pris une place quand même prédominante dans la course automobile? Aujourd'hui, on a l'impression que ce que veut faire un pilote automobile, c'est être champion du monde de Formule 1. Mais gagner les 24 heures, est-ce que ça a toujours aussi la même saveur qu'avant?
Oui, mais ce sont 2 sujets différents. Il y a le goal du constructeur et il y a le goal du pilote. Le Mans, c'est aussi une histoire de constructeur. Et dans le temps, la course d'endurance, c'était l'endurance pour la machine. C'est pas l'endurance pour les pilotes. Certes, c'est 24 heures, mais on peut le faire à 2.
À 2 ou 3.
La vraie question reste, est-ce que ma machine va tenir les 24 heures? On n'est pas à cette époque où on peut dire aujourd'hui que la machine marchera sans problème. Quand vous l'avez, ici, maintenant, on fait plus de la course d'endurance, on fait un Grand Prix de 24 heures. C'est ça qui a changé. Raison pour laquelle il y a 3 pilotes.
Ouais.
Et raison pour laquelle on se trouve avec les hypercars, avec toute une série de constructeurs qui viennent cette année, jamais il n'y a eu une course aussi disputée que celle-là. Dans le temps, c'était des combats Ford, Ferrari, Renault, Porsche et ainsi de suite. C'était toujours deux
constructeurs. Toujours deux qui venaient de
Bordeaux. Ici, ouais. Si vous faites la liste des gens qui seront candidats au Toyota, Glickenhausen, Porsche, Peugeot.
Oui, là, il y a un plateau exceptionnel cette année.
Hein. Oui, on annonce Renault l'année prochaine. Enfin, bref, ça va être très disputé. On ne s'y méprend pas quand on voit le succès, par exemple, au niveau des spectateurs, les billets, tout ça, il n'y en a plus. Enfin, bref, ce sera un événement très important, comme l'est cet événement-ci de la moto qui, moi, me séduit.
C'est ce que j'allais vous demander, vous qui êtes une légende de la course automobile, la moto,
il
ça
a,
vous
il a commencé par la moto, Jackie Hix. Il a commencé quand il était trop jeune pour conduire une voiture, je crois.
Il a commencé par les avions.
Vous aviez 14-15 ans. Et vous
oui,
avez dit,
les
vous
avions, avez... à 13 ans, je crois.
Et vous avez fait de la moto?
Non, d'abord, il faut faire le désespoir de ses parents en scolarité. Parce que la plus grande difficulté en sport mécanique, c'est d'avoir l'accord des parents qui, généralement, vous disent d'abord les études et puis on verra après. Mais après, c'est trop tard. Donc, mais à cette époque-là, ce n'est pas ça. Moi, c'est effectivement le désespoir des parents qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur fils, à qui les professeurs disent « Oh, votre fils, il est si intelligent. »
Votre papa était journaliste?
Oui, mais ça n'a rien à voir, heureusement, pour lui.
qu'est-ce qu'ils disaient les professeurs?
Les professeurs.
De vous?
Mais votre fils est si intelligent, mais qu'est-ce qu'il est paresseux? Ça, c'est la fin. C'est la, c'est la formule magique pour dire que vraiment c'est un problème définitif qui ne se réglera jamais.
Moi j'ai une question pour vous, Jackie, si vous me permettez. Déjà, je suis très impressionnée de me retrouver à côté de vous, comme vous êtes juste légendaire. Vous parliez des voitures du Mans. Quelle est votre position, votre sensibilité sur les voitures à l'hydrogène, les voitures électriques, les voitures de demain, vous qui représentez quand même l'apogée de la voiture thermique?
La vérité, à mon sens, sera dans la multiplicité des techniques appliquées. Il y aura dans le futur de l'hydrogène, il y aura du thermique, il y aura...
Mais elles vous font rêver, vous avez piloté,
non,
vous avez
essayé. Je veux dire par là que si j'écoute les constructeurs aujourd'hui, le tout électrique n'existera jamais. Parce que nous n'aurons pas ni les ressources, enfin il y a la multiplicité des problèmes inhérents à l'évolution de la mobilité. Parce qu'en fait, la mobilité, c'est quoi? C'est la liberté absolue des individus de circuler où ils veulent, quand ils veulent, de partir. C'est la liberté absolue. Ce qui a changé dans l'électrique aujourd'hui, c'est que si on faisait du tout électrique, un véhicule, au lieu de coûter 10 000 euros comme hier, il coûtera deux fois et demi, si pas trois fois le prix. Ce qui était formidable dans l'époque qu'on vient de vivre et dans laquelle il faudra bien entendu changer, c'est que c'était accessible à tout un chacun. C'est-à-dire que vous pouviez acheter une voiture pour 10 000 euros, avoir un coffre, avoir quatre places, avoir une famille et vous pouviez partir quelque part. Visiblement, cette époque est révolue puisque... On pousse le transport en commun, on a envie d'avoir moins, pour de bonnes raisons, moins de voitures dans les villes et ainsi de suite. Il va falloir s'habituer à un mode de vie
différent.
Mais quand on pense tout électrique, qui était un petit peu l'orientation de votre question sur l'environnement, l'environnemental, j'écoute les constructeurs, il y aura de tout, il y aura toutes les formules. Et ce sera un compromis de certaines choses, parce que c'est clair que si l'Europe décide de ne plus avoir de moteur thermique demain, c'est-à-dire après-demain, puisqu'on parle de 35, et que les autres continents ne le font pas, si l'Asie ne le fait pas, si les États-Unis ne le font pas, je ne dis pas que ça n'aura servi à rien, parce qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Mais c'est certain que c'est se tirer économiquement une balle dans le pied.
Une dernière question, Jackie Hix, avec vous, et avant de vous libérer, je sais que vous avez d'autres occupations, forcément.
C'est déjà fini.
Vous, la légende du monde.
C'est déjà fini.
Non, parce que j'ai encore une dernière question. On est là pour le MotoGP, pour ce Grand Prix, une victoire française. Est-ce que vous y croyez? On se posait la question en début d'émission. ou c'est trop compliqué?
Non, je pense qu'il faut, en sport, il faut toujours y croire. Mais c'est vrai que c'est difficile.
Prenez-en de la graine.
Vous avez Zarco, magnifique. Vous avez
Quartararo,
magnifique. Mais c'est sûr que, par exemple, pour Fabio, c'est nettement plus compliqué pour le moment. Il y a un vrai problème au niveau de la performance. Et aussi, malheureusement pour lui, il a la pression de tout l'amour que lui portent les Français. C'est un score aujourd'hui, hein. Franchement, il y aura, à mon avis, 250 000 personnes dans cet événement. Mais pour changer de sujet, parce que vous avez tous eu la gentillesse de dire légendaire, je viens d'une autre époque où on pouvait tout faire. Ok. J'ai bien réussi. Ok. Mais c'est le résultat du nous. Ce que je voulais vous dire dans la légende. Ceux qui font votre réussite, c'est tous les gens que vous ne voyez pas. Et en automobile ou en sport mécanique, c'est très, 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 très important. Ils ont le mérite d'avoir une passion égale à la nôtre, mais cette passion, ils l'appliquent pour faire un véhicule pour d'autres personnes. Ils sont aussi une assurance. Pour la vie qu'on a évoquée à un moment donné. Donc, je compare volontiers le métier de sportif dans le sport mécanique, comme en MotoGP. Nous sommes le sommet de l'iceberg, quelque part.
Oui.
Et aussi le miroir d'une histoire, parce qu'on évoquait le musée et tout ça, et les antiquités pour lesquelles vous avez de la passion avec Giacomo et Jacques Lafitte. Et ces gens-là, c'est, quand je parle d'iceberg, nous sommes la partie émergée. La partie immergée, elle est beaucoup plus importante que celle d'en haut. C'est la captation de la lumière, de la gloire, et puis de ces mots gentils que vous dites, légende, des héros, de tout ce que vous voulez.
On a bien compris, on ne dira plus légende quand on parlera de Jacky. Mais si, on dira
oui,
encore légende.
Vous devrez dire, il est le résultat de...
Très bien, la légende, le résultat de nombreuses personnes qui se sont aussi investies pour votre succès.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci Jacky.
On sera de retour pour les 24 heures du Mans et on sera ravis de vous accueillir de nouveau dans cette émission dans 3 semaines en tout cas. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct sur RMC. Vous avez parlé de Fabio Quartararo, c'est compliqué, on en parle dans quelques instants avec le patron de Yamaha Europe. Un point sur le judo avec Morgan Mori en direct de Doha pour les championnats du monde et l'équipe de France qui peut encore glaner une médaille. C'est par équipe aujourd'hui.
Oui, les Bleus sont en quart de finale. Ils viennent de sortir la Lituanie. 4-1. Roman Dico, Joseph Terek, Priscilla Nieto et Margot Pino sur une clé de bras ont donné les points à l'équipe de France. Rendez-vous en quart de finale face au vainqueur de l'opposition entre la Bulgarie et la Roumanie.
Merci beaucoup Morgan Mori, on te retrouve un petit peu plus tard dans cette émission tout au long de la journée. On espère une très belle nouvelle pour le camp français. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Nous allons parler de Fabio Quartararo. Il se plaint souvent en ce moment. Doit-il quitter Yamaha? Ce sera notre question. Question que nous allons poser au patron de Yamaha Europe. A tout de suite sur RMC pour les grandes gueules du sport en direct du Mans.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
10h26, de retour sur RMC en direct du Mans pour le Grand Prix MotoGP, le 1000e de l'histoire. Ça va être une magnifique fête aujourd'hui sur RMC. Le départ de la course est à partir de 14h avec, on l'espère, une victoire française, même si on sait ce sera difficile. Fabio Quartararo, Johan Zarco, nos deux champions, nous allons les pousser aujourd'hui sur RMC. Toujours avec les grandes gueules, Marie Martineau, Christophe Cessieux, Simon Dutin et Renaud Longuèvre. Tout de suite, on attaque le dossier Fabio Quartararo.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Nous allons parler de notre champion français avec Éric De Seyne, le patron de Yamaha Europe, mais également tout nouveau président de l'I2MA, l'équivalent de la FIA en Formule 1. Bonjour Éric.
Oui, bonjour à tous. Bonjour
Éric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Bon, forcément, en ce moment, vous le savez mieux que quiconque, c'est une saison difficile pour Fabio Quartararo, champion du monde en 2021, seulement 11e au classement après 4 Grands Prix. Plus grave encore, le pilote français n'hésite plus à s'en prendre à son écurie. C'était il y a 2 semaines, on l'écoute.
Il va falloir essayer de trouver une solution pour demain et surtout une solution pour rouler au moins derrière un pilote où on peut rester collé et essayer un dépassement, parce que là c'est vraiment un cauchemar. Il va falloir, trouver une solution et surtout changer la mentalité du team, parce que je pense qu'on est plus en train de dormir que faire quelque chose de bien.
On est plus en train de dormir. Hier encore, après sa chute lors de la course sprint, Fabio Quartararo l'avait mauvaise.
C'est dur parce que quand on a une mentalité comme je l'ai, c'est compliqué de se dire voilà, ben c'est comme ça. Mais malheureusement, voilà, je pense que pour faire améliorer les choses, il faut rester calme. J'essaye de faire mon maximum et de pas m'énerver. Mais bon, en ce moment, on est dans une situation où on n'est pas bien. On n'a jamais été aussi mal.
Entendre Eric De Seine avant d'entendre les grandes gueules
bon
du sport.
Bon entend en matière, Eric. C'est sympathique. C'est sympathique.
Bien vu
comme ça.
Well, well done.
Voilà, une intro bien lancée. Bon.
Ben écoutez, c'est un métier. Nous adorons Yamaha et nous adorons Fabio Quartararo. Attendez, vous n'avez pas encore entendu le débat. Notre commentateur, Paul Lafitte, est avec nous. Rebonjour, Paul. Tu as rencontré Fabio hier. C'est quoi le problème aujourd'hui et dans quel état d'esprit est le Niçois?
Le problème, c'est que l'homme ne fait plus corps avec sa machine. Qu'il se retrouve aujourd'hui face à une équation quasi impossible, performer au guidon d'une moto dans laquelle il n'a plus confiance et qu'il pilote sur un fil tout le temps à la limite. Quartararo, considéré par ses pairs aujourd'hui comme le meilleur pilote du plateau MotoGP, est aujourd'hui, on le sait, dans le ventre mou du classement général en raison du manque de compétitivité de sa Yamaha, et qui, si elle a gagné en puissance moteur depuis le début de la saison, a régressé sur le package aérodynamique, déficiente sur le train avant, sur sa capacité de freinage et notamment sur son agilité de passage en courbe, poussant notamment les ingénieurs d'El Diablo, le niçois, à un rétropédalage, à savoir revenir sur la base de la M1 de 2021, la moto qui avait permis aux Niçois de décrocher la couronne mondiale des pilotes. C'est un travail qui ne semble pas, j'y sais aujourd'hui, porter ses fruits. Quartararo ayant signé, tu le rappelais hier, le 13e temps des qualifications au Mans, avant de chuter hier au 10e tour de la course sprint, alors qu'il occupait une peu reluisante 8e place au classement général, indigne évidemment de son rang de vice-champion du monde en titre. Et si le divorce ne semble pas encore consommé entre Quartararo et le team officiel Yamaha, il se murmure que les choses pourraient changer, peut-être en fin de saison, malgré la prolongation de son contrat chez l'écurie Nippon jusqu'en 2024, pour rebondir chez Ducati ou chez Honda, point d'interrogation, deux écuries capables peut-être de ramener El Diablo sur le chemin de la victoire.
Merci beaucoup Paul Lafitte pour ces précisions. Nous allons donc poser cette question et Eric De Seine nous apportera des éléments de réponse pour savoir ce qui se passe en ce moment entre Yamaha et Fabio Quartararo. La musique qui fout les jetons, c'est de coutume dans cette émission, et cette question, mes GG. À force de se plaindre, vous avez entendu Paul Lafitte, vous avez entendu Fabio Quartararo. Est-ce inéluctable? Fabio Quartararo doit-il partir? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Marie Martineau?
C'est un non pour moi aussi.
Renaud Longuet?
Oui.
Simon Dutin?
Oui.
J'ai deux oui, deux non, évidemment, Eric De Seine. Vous pouvez répondre aussi à cette question, en tout cas votre regard sur la situation actuelle.
Bah écoutez, moi, ma réponse est non, en tout cas, au risque de vous surprendre. Non, je crois qu'on on met tout dans un panier en faisant une sauce malodorante, c'est dommage. Je crois simplement qu'on a un problème depuis le début de saison, on l'a exprimé, c'est qu'on n'arrive pas à gérer nos qualifications. Bon. Donc, et aujourd'hui, en Grand Prix, il faut avoir conscience que le plateau s'est resserré d'une manière encore plus violente que ce que c'était il y a un an ou il y a deux ans. Il y a un an, en une seconde, deux, il y avait les 15 premiers. Aujourd'hui, c'est en 7 dixièmes. Donc, ça veut dire que le plateau s'est encore resserré, s'est encore regroupé. Et on fait partie de ce plateau qui s'est regroupé. Ici, on est à peu près 3 dixièmes, plus rapide que l'an passé. Donc, il y a une progression, mais tout le monde progresse. Et c'est une partie du problème. Là où on a tout de même des éclairages intéressants, c'est qu'en rythme de course, que ça soit à Austin, que ça soit à Jerez, que ça soit ici, on est dans le coup. On est dans le coup. À Jerez, Fabio avait réalisé le meilleur temps au warm-up en conditions de course. Ici, il était encore en tête du warm-up jusqu'au dernier tour. Et puis finalement, il termine cinquième, mais il y a moins de 2 dixièmes entre tous. Donc on s'aperçoit qu'en rythme de course, la moto est lisible. Et d'ailleurs, pas pour contredire Fabio, mon but n'était pas là, mais hier, quand il est revenu dans le box après sa chute, il était content. Pourquoi il était content? Parce qu'il s'est retrouvé 16e au premier virage. Et il est remonté 8e. Et il a vu qu'à la régulière, il passait les Aprilia. Il a vu qu'il pouvait se battre. Et hier, en tout cas, il n'avait pas ce problème de surpression du pneu avant qu'il avait rencontré à Jerez. Ou lorsqu'il se retrouve derrière un paquet de pilotes, donc déventé, il a cette augmentation de la pression qui, à un moment, le rend en incapacité de pouvoir exploiter les capacités de sa moto.
Éric De Seyne, j'entends la méthode Coué, mais quand on entend Fabio Quartararo, comment vous prenez ça en tant que patron d'écurie, j'imagine que ça fait pas forcément tout le temps plaisir. C'est peut-être juste de la com de sa part, mais
D'abord, il faut que je vous rappelle, moi je suis pas patron d'écurie, je suis patron d'Yamaha en Europe, je suis au bord du Japon. Mais à un moment, autant je suis patron du Superbike, du Dakar, du motocross, du championnat du monde d'endurance, où là c'est moi qui contracte avec mes pilotes et mes écuries, autant sur le MotoGP, c'est sous le contrôle du Japon direct. Donc à un moment où moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir parler droit dans les yeux à Fabio, en tant que patron de Fabio Quartararo, en tant qu'ami, je lui dis des trucs. Et notamment quand la semaine dernière, où il y a 15 jours, il a dit « on est tous endormis », le dimanche matin, je lui dis, je te préviens, Fabio, tu m'as empêché de dormir. Parce que moi, sur Facebook, j'en ai reçu un paquet de mecs qui me disaient, alors est-ce que vous dormez? Alors, si tu pouvais m'éviter ce genre de truc, ça m'arrangerait. Bon. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, Fabio est un champion. Ça a été dit tout à l'heure, il a été champion du monde en 2021 avec nous, il a été vice-champion du monde en 2022. Et d'ailleurs, une grande partie du plateau, par moment, lui dit, arrête de critiquer parce que ta moto, on aurait bien aimé la voir. Bon. Donc, on est tous dans cette guerre-là d'une compétitivité de plus en plus exigeante. Vous savez, moi, j'ai démarré dans les Grands Prix en 83, en 84. À l'époque, sur la première ligne, il y avait 1,8 seconde d'écart entre le premier et le troisième. Maintenant, on est dans un autre monde. Et cet autre monde, il a ouvert aussi d'autres technologies. Et nous, on sait que sur certaines de ces valeurs-là, on est en retard. Celle sur laquelle on est le plus en retard, c'est l'aéro. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous apercevez qu'un Ducati qui a quand même 8 motos sur la grille.
Mais alors, donc, justement, est-ce que c'est pas ça le problème, Eric ? Parce que là, vous battez face à une adversité qui est dingue. Parce que là, on est chez Pramac, mais Pramac fait partie de Ducati. Ils travaillent tous en commun. Vous avez que deux motos. C'est difficile de lutter contre une armada comme ça.
On l'a pas souhaité, hein.
Ouais.
On ne l'a pas souhaité. Les 8 motos qui ont été accordées à Ducati n'étaient pas dans ce que la Dorna était censée organiser. Donc on s'est retrouvé face d'un seul coup à un acteur très puissant, dominant, qui en plus s'est retrouvé dans une période où maintenant on sait que Ducati appartient au groupe VAG, à Audi, et donc ont accès à des technologies, à des recherches du motorsport, de l'automobile. Et pourquoi l'aéro est venu dans la moto ? C'est parce qu'il y a des nouveaux acteurs, Ducati entre autres, mais maintenant KTM grâce à Red Bull, qui ont accès à des recherches, à un historique, notamment sur la connaissance de l'aéro, que nous, acteurs de la moto, on n'avait pas. Il n'y avait pas de travail d'aéro.
Yamaha, c'est quand même une marque importante,
mais,
quand même.
Oui, mais l'aéro...
Vous n'êtes pas un petit artisan par rapport...
C'est pas ce qu'on dit. Mais je dis juste que cette technologie, cette recherche sur l'aéro... est quelque chose de très nouveau dans le MotoGP qui n'existait pas et sur lequel nous aujourd'hui il faut qu'on remonte le courant. Mais on n'a pas une alliance Formule 1, Motorsport au même titre que les autres. C'est pas pour ça qu'avec nos petits points on va y arriver. Hein. Mais donc on recrute, on intéresse, mais il faut acquérir cette connaissance parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement fin. Donc un des éléments clés, c'est cet aéro qui permet aujourd'hui d'impacter le comportement châssis des motos en virage et qui était notre point fort. Sans aéro, c'était la qualité de Yamaha. Avec aéro, on a perdu une partie de cet avantage.
Les GG, parlons de Fabio Quartararo et de ce début de saison, ouais. Et aussi de votre avis sur ce qu'il peut dire en conférence de presse. Évidemment, ce n'est peut-être pas le même son de cloche au sein de son écurie, mais forcément, c'est une résonance importante. Renaud Longuet.
Ouais, moi, je suis pas dans le monde des sports mécaniques, mais j'ai entraîné des champions du monde en athlétisme et j'ai essayé de réfléchir un petit peu à dans mon sport. Il y a récemment eu un impact du matériel avec les semelles en carbone sur le marathon. Si on reprend un petit peu en athlétisme, on a les grosses marques Adidas, Nike, Asics qui prennent des athlètes élites sous contrat. Et quand les semelles en carbone sont arrivées, c'est 2 minutes d'écart sur un marathon. Et donc on a vu des athlètes élites qui ont renoncé à leur contrat. Parce que tu peux pas, quand tu es un champion du monde comme Fabio Quartararo, tu peux pas te mettre au départ d'une course. Quand tu es un champion de marathon et que tu sais que tes godasses, elles te pénalisent de 2 minutes, tu préfères renoncer à ton contrat et aller chez l'équipementier qui va te payer moins parce qu'il a déjà d'autres athlètes très bien. Mais tu peux pas. Donc vous comprenez bien quand même que le temps presse. pour quelqu'un comme Quartararo. Il n'y a rien de pire pour un champion du monde que de se mettre au départ d'une course et de se dire que sa machine le pénalise. Non, ça, c'est juste insupportable pour un champion du monde.
Non, mais je suis très content parce qu'on se parle entre compétiteurs. Et la compétition, c'est ça. Yamaha est depuis 1964 en Grand Prix, avec son premier titre de champion du monde, il y a maintenant plus de 60 ans. Donc, je pense que la manière d'aborder la compétition de haut niveau, c'est dans nos gènes, et on le sait. Et quand je vous parle d'aéro, c'est pas que je renie cet aspect-là. On cherche au contraire toutes les variables sur lesquelles on peut intervenir. L'an passé, Fabio nous a demandé un moteur. La dimension du passage en courbe et la vitesse de passage en courbe n'était pas un sujet. Donc on s'est concentré sur le moteur. Mais heureusement pour nous, même si ce n'est pas très spectaculaire, on n'a pas travaillé que là-dessus. Ça veut dire que l'an passé, on est reparti dans une dynamique où vraiment on s'est donné les moyens. Où Yamaha a décidé, au niveau du groupe, de mettre les moyens. Comme on sait qu'on n'a que deux pilotes, contrairement aux autres écuries, qui en général en ont quatre, et comme c'était notre cas jusqu'à l'an passé, on n'avait pas le choix. Il faut écouter tout ce que nous demande Fabio et essayer de donner ce que souhaite Fabio. Donc, on a d'abord travaillé sur le moteur, et puis ensuite, il a fallu travailler sur le châssis. Parce que malgré tout, quand vous arrivez 10-15 km à l'heure plus vite en bout de ligne droite, le comportement de votre moto au freinage pour rentrer dans votre virage, c'est plus le même. Donc, à un moment, il faut s'adapter. Et une manière, c'était de retrouver de la stabilité à haute vitesse de la moto à cause de ses performances. Et là, on a reperdu en entrée en virage. Donc maintenant, alors quand on dit « Oui, vous revenez en arrière », non, c'est pas qu'on revient en arrière, c'est qu'à un moment, on a devant nous un certain nombre de paramètres, semelle carbone ou pas semelle carbone, et à un moment, vous faites le meilleur compromis et le meilleur choix par rapport à ce que le pilote vous remonte. Donc on est dans ce travail-là.
La différence... Donc vous ne dormez pas chez Yamaha,
Eric ? Non, non, mais un, on ne dort pas. Deux, on investit. Trois, il faut bien aussi avoir en tête qu'on est en face de motos, je parle de Ducati principalement, mais aussi d'Aprilia, un peu moins de KTM qui a évolué, qui ont la chance d'avoir une moto avec une base extrêmement forte. Et quand vous êtes champion du monde, et on l'a connu en 2021, en 2022, vous ne faites pas la révolution sur votre moto, parce que vous savez que finalement, vous avez le meilleur package. Donc, c'est ce qui se passe aussi pour les autres, alors que nous, on a dû remettre en cause. Donc, il y a beaucoup d'éléments nouveaux sur la moto, mais on se retrouve dans une saison en 2023 où il a été créé cette sprint race, qui fait que d'un seul coup, il n'y a plus que deux séances d'essais libres, et non plus trois.
Ce qui vous aide pas dans la situation dans laquelle vous êtes à devoir trouver des solutions.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une course contre la montre, mais c'est l'habitude en compétition, où on a moins de temps d'essai pour mettre au point la moto pour les qualifs et pour la course qu'auparavant, que même la saison dernière. Au moment où on a fait évoluer la moto.
J'ai envie de comparer ça un petit peu en Formule 1 à Mercedes. Juste avant, ne posez pas que des questions, j'ai envie d'avoir votre avis aussi sur la situation de Fabio Quartararo. Simon Dutin, tu prends la main et après Marie Martino.
Oui, Eric, alors on ne fait pas toujours un métier facile parce que nous, souvent, on en parle entre nous, mais là, vous êtes face à nous et on est obligé de prendre position. Donc, effectivement, j'ai pas envie de vous vexer, d'autant que, effectivement, je ne suis pas un spécialiste des sports mécaniques. Je suis pas tous les week-ends dans cette émission. Je vous avais entendu il y a 18 mois dans la même émission. À l'époque, on se demandait, vous souhaitiez que Fabio s'engage sur le long terme, re-signe chez Yamaha. Vous aviez, sauf erreur de ma part, pris des engagements sur l'amélioration de la vitesse de pointe. Est-ce que ces améliorations ont réellement été effectuées? Vous dites que vous aviez gagné en puissance. Est-ce que vous n'avez pas perdu du coup en aérodynamisme ou en ce qui faisait les forces de votre moto à l'époque? Est-ce que finalement il n'y a pas, moi c'est ce que je crois essayer de comprendre, un problème de développement, c'est-à-dire que souvent Yamaha débarre bien la saison et la deuxième partie de saison est plus compliquée. J'en veux pour preuve les 4 podiums seulement sur les 9 dernières courses en 2021, les 3 victoires en début de saison 2022, et après cette avance record perdue par Fabio sur Bagnaia. Il y a cette question des écuries satellites, Yamaha qui ne souhaitait s'engager que pour un an avec des écuries satellites. Qu'est-ce que vous répondez à ça si Fabio vient vous dire, bon écoutez, les engagements n'ont pas été tenus, quelle réponse avez-vous à lui apporter, à part effectivement, oui Fabio, effectivement on bosse, parce que comme disait Christophe, de la part d'une institution comme Yamaha, on ne doute pas que ça doit être l'émulation et que tout le monde fait ce qu'il faut pour améliorer la situation.
Non, alors deux éléments de réponse. Le premier, vous l'avez sur les chronos, regardez comme moi sur l'écran les vitesses de pointe et vous verrez que ce matin, à chaque fois comme hier, Fabio se situe dans les top 5 des vitesses de pointe, ce qui n'était pas le cas l'an passé. Donc aujourd'hui, on a des écarts de 2 km à l'heure à peu près par rapport aux meilleures vitesses. Donc sur ce point, je peux dire qu'on a répondu en tout cas à l'attente de Fabio. Et Fabio sait que c'est pas fini, puisqu'évidemment, on travaille pour continuer à améliorer. On se contente pas d'avoir rattrapé le wagon. L'idée, c'est d'essayer d'être devant le wagon. Donc, on continue à bosser. Et là-dessus, Fabio le sait très bien. Après, là encore, on est dans un environnement mouvant. Et puis, il faut bien comprendre qu'un package, c'est une moto et un pilote. Donc, l'an passé, vous faites allusion à l'an passé, mais la deuxième partie de saison, je pense qu'on avait une telle avance qu'à un moment, mais Fabio lui-même le reconnaît, il a pris des options plus risquées qu'il ne l'aurait fait en début de saison, puis finalement, pas de bol, ça aurait pu passer, c'est pas passé. Bon. Et après, à Seine, les pénalités, le long lap, enfin bon, après, il y a les circonstances de course, mais il faut l'accepter, c'est la compétition. Donc, aujourd'hui, ce que je crois, c'est que, et Fabio le sait très bien, et moi, j'ai encouragé Soumi-san, qui est le patron du développement technique au Japon de notre cellule MotoGP. J'ai encouragé Soumi à être plus ouvert avec Fabio, que Fabio connaisse absolument tous les plans sur lesquels on travaille. Parce que par moment, Fabio, il s'exprime par rapport à ce qu'il a entre les pattes.
Ouais.
Mais derrière, nous, on a parfois une vision différente, parce qu'on sait ce qui va intervenir, on sait ce sur quoi ça travaille, on sait ce qu'on a recruté, on sait ce qu'on a comme nouvelles compétences. Et tout cet environnement-là participe à donner une lecture du package qui va en évolution. Donc par moment, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus confiance que Fabio, mais j'ai une information qu'il n'a pas toujours.
C'est important d'avoir de la communication. Marie Martineau, rapidement les copains, parce qu'après on devra libérer Eric De Sède. Christophe aussi, vous intervenez.
Moi je regarde Eric, parce que j'ai réécouté tout ce que vous disiez l'année dernière, je trouve ça très intéressant, je vous trouve toujours très pertinent. C'est pour toutes les raisons dont vous venez de parler que je pense que Fabio Quartararo devrait rester chez Yamaha, parce que c'est là où c'est intéressant. Il n'est pas qu'un mercenaire qui monte sur sa moto et va à la chasse de centième sur des circuits. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour lui, et d'autant plus à ce moment-là de sa carrière, de s'inscrire comme un pilote qui est capable d'aider au développement, de trouver des solutions. Donc je suis ravie de vous entendre dire que vous poussez dans le sens d'ouvrir un peu toutes les vannes et pour qu'il ait toutes les informations. En tout cas, j'espère que ça lui permettra de rester et de vivre ce truc-là, de devenir encore un autre pilote. Il est champion du monde, c'est très bien, mais qu'il devienne encore, qu'il passe encore un cran pour devenir ce mec qui est capable de bosser avec ses équipes. Donc je souhaite vraiment d'y arriver. Ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer trouver des solutions avant la fin de cette saison, ou clairement ça va trop vite, vous allez jouer la sauvegarde, vous attrapez à la bouée de sauvetage et vous misez sur la saison prochaine en espérant...
Non, on ne peut pas être en compétition en MotoGP en ayant une attitude comme vous la décrivez. Mm-hmm. C'est incompatible avec la mission même du sport. Et sinon, il faut rester à la maison et vous faites des formules de promotion et puis vous en restez là. Non, on a une autre ambition, on a des solutions, on travaille. J'espère que... vous savez, il faut aussi accepter qu'il y a un règlement qui est assez fermé. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait le show du MotoGP aujourd'hui. Mais les pneus, c'est tout le monde les mêmes. L'électronique, c'est tout le monde la même. Et donc, les variables sur lesquelles le constructeur peut jouer se sont pas mal réduites. Et en plus... on ne peut pas mettre sur la piste tous les développements qu'on a actuellement développés, parce qu'il y a des séquences sur lesquelles vous avez accès à porter quelque chose à la moto et d'autres pas. Donc par moment, il faut savoir faire avec le meilleur package qu'on a, et puis par moment, quand il y a la fenêtre, il faut tout de suite s'y mettre. Bon. Donc il va y avoir des évolutions, on travaille sur la moto pour exploiter les fenêtres où on peut apporter quelque chose. On l'a fait avec les échappements, on l'a fait... Donc en permanence, c'est un travail en permanence. Et donc la moto de fin de saison ne sera pas la copie conforme de ce qu'elle est aujourd'hui.
Très bien.
Donc après, dans quelle proportion ça va impacter, on le verra, parce que nos copains en général ils dorment pas non plus.
Exact.
Très rapidement, Christophe.
C'est difficile de travailler avec un pilote qui balance constamment sur son écurie, Eric?
Évidemment que c'est difficile.
C'est la marque des grands champions aussi.
Hamilton fait un peu la même chose avec Mercedes.
Évidemment que c'est difficile. Je pense que je commence à avoir le cuir un peu tanné, donc j'essaye de ne pas me laisser impressionner. Et moi, ce qui compte, c'est la communication avec le pilote. Ça veut dire qu'à un moment, on peut comprendre la frustration. Et donc la frustration, elle fait dire des choses. Mais à un moment, moi, ce qui compte, c'est la valeur du travail que l'on fait ensemble. Et tant que le travail il est intègre entre Fabio et l'équipe, j'ai aucun doute.
Eric De Sède, combatif dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite une très belle saison. Et évidemment,
l'année prochaine, vous reviendrez. Vous verrez, ouais, sera moins le tracteur.
J'espère qu'il y aura moins de oui.
Et évidemment, nous allons suivre avec attention la saison de Fabio Quartararo, ce Grand Prix du Mans. Et on souhaite beaucoup de réussite à votre écurie et à Yamaha. Merci d'avoir été avec nous, Eric De Sède. On se retrouve dans quelques instants. Les grandes gueules du sport, toujours avec Christophe Cessieux, Renaud Longuet, Simon Dutin, Marie Martineau et le président de la Fédération française de moto, Sébastien Poirier, sera notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport pour le Grand Prix du Mans. Vous le savez, c'est l'événement aujourd'hui sur RMC. Nous sommes là jusqu'à midi à partir de 14h. La course, la 1000e course de l'histoire du MotoGP avec nos deux Français, Johan Zarco, Fabio Quartararo. Toujours avec Christophe Cessieux, Renaud Longuèvre, Simon Dutin, Marie Martineau et notre envoyé spécial qui traîne sur le circuit Ducati. C'est Valentin Jamin qui a retrouvé des supporters, notamment de nos deux Français, Valentin.
Oui, je suis avec Mickaël et Owen. On vient de sortir de la voie des stands parce que c'est des chanceux. Vous avez pu voir, messieurs, c'est quoi les motos un petit peu, comment ça se passait dans la voie des stands, les paddocks, c'est ça, qu'est-ce que vous avez vu?
Bah ouais, j'ai vu les motos. J'ai surtout pris celle de Quartararo parce que bon, c'est le français et puis pour lui, même Zarco. Et ils nous ont donné des posters, donc c'est cool, ouais.
Qu'est-ce que ça fait de voir de telles machines en fait? C'est impressionnant pour vous qui êtes fan?
Très impressionnant, surtout au niveau bruit, au niveau sonore, on en prend plein les petits les oreilles, c'est une expérience à prendre. C'était très sympa, très sympa.
Parlons un petit peu de l'ambiance en général, plus de 110 000 personnes attendues aujourd'hui, grand soleil, comment vous vivez ça, qu'est-ce que vous ressentez un petit peu depuis ce matin?
Super content qu'il y ait le soleil, qu'il soit au rendez-vous, une super ambiance, c'est vrai, beaucoup de monde, non une bonne expérience, on a hâte à la course.
Ouais, c'est vrai que je pensais qu'il allait pleuvoir au début. Et le soleil il est là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde là dans les stands. On n'arrivait pas trop à voir ce qu'on voulait. Mais bon, maintenant ça le fait. Et puis on a hâte d'y être.
Vous avez vu la parade un petit peu? Vous avez vu un peu les pilotes? Vous avez pu leur faire un petit coucou?
Oui, de toute façon c'est ce que j'attendais. J'étais devant et puis on faisait bonjour. Et puis ils nous répondaient, c'est bien, c'est gentil.
Bon, pour terminer, vous avez tous les deux des casquettes à l'effigie d'El Diablo Quartararo. Un petit pronostic pour lui et pour les Français aujourd'hui, on commence avec vous.
Bon, numéro 1.
Ambitieux.
Oui, je pense.
Zarco, Quartararo, ça va finir comment?
Moi, je dis les deux sur le podium. De toute façon, il faut être ambitieux dans la vie, les deux sur le podium.
Voilà, on est confiants ici et l'ambiance monte tout doucement au niveau du paddock et de la piste.
Merci.
Ouais, confiant, j'aurais même dit plus. Hein. Les deux sur le podium, on en rêve ici dans le studio RMC. D'ailleurs, Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de moto, est notre invité. Bonjour Sébastien.
Bonjour à vous.
Vous étiez déjà avec nous la saison dernière, on est ravis de vous accueillir. Vous avez entendu ces supporters, forcément, ils rêvent. Ils ont raison de rêver aujourd'hui pour ce grand spectacle. Une victoire française, vous y croyez?
Écoutez, ça serait en tout cas formidable hein, qu'on ait une victoire française, notamment de Johan. Clairement, sa première victoire française en Grand Prix, en MotoGP, ça serait top ici en France. En tout cas, c'est ce qu'on espère et je crois que sincèrement, sa moto fonctionne bien. On l'a vu hier avec son coéquipier qui a gagné la course sprint. Il a fait un bon warm-up, donc pourquoi pas.
Vous avez déclaré il y a quelques jours, on n'a jamais été aussi populaire. Vous parlez de la moto en général. La saison moyenne des Français, on sait que Fabio Quartararo a été champion du monde il y a 2 ans, mais cette saison moyenne des Français, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un frein pour l'évolution de la moto en France?
Écoutez, moi je crois qu'un sport, il est porté par ses champions. On a la chance d'avoir deux champions. Ils ne seront pas tous les ans champions du monde, mais ils sont là, ils brillent, ils animent les courses MotoGP. Alors évidemment, on aurait aimé que Fabio soit un peu plus devant, mais je crois qu'il donne le maximum, il est toujours là. Et puis Johan, il a tout pour réussir. Donc évidemment que nous, en tant que Fédération Française de Moto, à travers eux, c'est toute la moto française qui est portée, qui est valorisée. C'est l'image de notre sport qui est parfaitement représentée. Ce sont vraiment deux très beaux champions complémentaires. Et donc, pour le sport moto en règle générale, c'est totalement positif.
Christophe, ce sont de véritables boosters pour l'intérêt de la moto en France. On peut se passer aujourd'hui, est-ce que la moto pourrait se passer de grands champions comme ça? Est-ce que aujourd'hui le sport moto est assez bien installé en France pour se passer évidemment éventuellement de grands champions comme ça?
Écoutez, on fête le 30e Grand Prix ici organisé par PHA. Souvenons-nous où on était le Grand Prix il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on a commencé à la CO avec 25 000 spectateurs. Aujourd'hui, on a 100 000 spectateurs. Par le passé, on n'avait pas de pilotes en catégorie
FAC. Et ce sont ces pilotes qui ont provoqué cet intérêt aujourd'hui du grand public.
Je pense qu'il y a un tout. La Dorna a fait un travail considérable, le promoteur à la CO également. Et puis en parallèle, on a eu des champions en 125, des champions aussi en moto 2. Johan a été champion du monde, double champion du monde il n'y a pas si longtemps. Et puis là, on a deux pilotes qui sont passés en catégorie Rennes. Donc pour nous, Fédération, il faut en profiter. Nos spectateurs sont là pour les encourager, ça porte encore une fois une discipline. La Fédération française de moto, c'est une fédération multidisciplinaire. Donc on a évidemment la vitesse, mais on a aussi le motocross. Et en motocross, on brille depuis très longtemps avec une filière d'excellence. On a le trial enduro. Donc évidemment que la moto, dans les médias et dans le grand public, c'est avant tout la vitesse, mais ça n'est pas que ça. Donc on a une fédération qui est portée par de nombreux champions. Mais évidemment, le fait d'avoir un champion du monde en 2021, on a vu la caisse de résonance que ça a offert à notre sport et à l'image de notre sport.
Simon Dutin.
Président, c'est révélateur la formulation de Jean-Christophe qui parle d'une saison moyenne des pilotes français. Alors moi j'ai quand même souvenir, c'est il n'y a pas de rétro sur les motos de MotoGP, mais il faut toujours se regarder en arrière lorsqu'on s'intéresse à l'état du sport en France, d'une discipline. Moi j'ai le souvenir d'une époque où à l'époque c'était la 500 cm3, on n'était pas invité. Hein, nous français, il y a eu les expériences Jean-Michel Bay, il y a eu Olivier Jacques, bon, Régis Laconique, il y avait une victoire, Randy Depuyer. Il y a quand même malgré tout une progression, quoi. Je veux dire, là on en est à espérer des victoires françaises. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la Fédération française? En quoi la formation des jeunes pilotes a évolué? Quelles ont été les améliorations
D'ailleurs, je complète la question. Vous voulez développer avec Johann Zarco la moto encore plus pour les jeunes, que ce soit de plus en plus accessible.
Exactement. Alors, la réponse, elle est très complexe parce que il faut savoir, dans le parcours de Fabio comme de Johann, ils sont partis très jeunes à l'étranger. C'est-à-dire que Fabio est parti en Espagne et Johann a construit son parcours aussi en Italie. Donc, on a des champions français, mais c'est vrai que dans leur parcours sportif, il faut vraiment reconnaître qu'ils sont partis très très tôt à l'étranger. Donc, l'objectif pour nous, Fédération aujourd'hui, c'est de récupérer l'expérience de l'Espagne et de l'Italie pour nous approprier surtout les circuits de karting. C'est-à-dire que on a la chance en France d'avoir un très très beau maillage territorial et en Espagne et en Italie, les mini-motos roulent énormément sur les pistes de karting. Donc le travail que l'on porte aujourd'hui, c'est d'élargir la base et ça, elle passe par une accessibilité à notre sport beaucoup plus large. Et c'est comme ça qu'on réussira demain à sortir des champions.
Et ça, vous y croyez ?
Oui, bien sûr, j'y crois. D'ailleurs, on avait eu 2 championnats régionaux par le passé. Aujourd'hui, on a 8 championnats régionaux. On a une 60aine de circuits homologués karting, ce qui est déjà une belle progression. Et donc la moto est beaucoup plus accessible avec des mini-motos et ça c'est vraiment la priorité des priorités. Et ensuite je crois que nous avons posé une colonne vertébrale beaucoup plus claire sur la filière de haut niveau. Comment est-ce qu'elle se construit? Où est-ce qu'on doit être?
Comment on y accède?
Surtout éviter que les parents se dispersent dans différentes formules. Et donc ça, on a vraiment simplifié les choses. Et moi je suis très confiant en effet, parce qu'on a, un championnat de France aujourd'hui qui est composé d'une trentaine de pilotes, de très bons pilotes. Et c'est à partir de cette base là qu'on va pouvoir construire la filière de demain, avec des pilotes qui resteront beaucoup plus longtemps en France. Hein, c'est ça l'objectif.
Marie, rapidement une dernière question.
Oui,
je sais que tu veux aussi parler à tous les motards qui nous écoutent.
Ouais, un petit pas de côté, Monsieur le Président, ça grince des dents en ce moment parce que l'État a mis en place un contrôle technique pour des deux roues. Est-ce que vous avez pesé là-dedans? Est-ce que vous avez pu être assis autour de la table? Quel a été votre rôle en fait là-dedans et quelle était votre position?
Oui, alors nous, on est une fédération évidemment sportive avant tout. Ceci étant, on a une délégation et on a dans notre statut une vision un peu plus large. On a été associé sur le contrôle technique, sur l'abrogation. Moi, j'ai été reçu à plusieurs reprises par le ministre Clément Beaune avec la Fédération française des motards en colère. On travaille avec eux également. Moi, je crois que l'État ne voulait pas de ce contrôle technique, hein, en reconnaissant que l'intérêt était très, 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 très mineur pour le deux roues motorisé en termes de sécurité. Mm-hmm. Donc, on se bat avec eux. On se bat. Aujourd'hui, on a 2 associations ou 3 associations qui ont déposé un recours. D'ailleurs, on pourrait s'interroger quant aux différents conflits d'intérêts qui existent aujourd'hui, hein, dans le financement de ces associations. On l'a, avec la FFMC, on a communiqué là-dessus. Donc, il y a un nouveau recours qui a été déposé, hein, pour une action de l'État. Donc, on aura prochainement une réunion. Pour nous, c'est très important parce que le contrôle technique, on considère qu'il ne sert à rien en termes de sécurité. Et deux, s'agissant du sport, ça nous pose un souci parce que, évidemment, une machine qui participe à des compétitions, notamment trial et enduro, elle ne rentre absolument pas dans des critères de contrôle technique. Donc, on va avoir un travail de fond à mener. Mais sincèrement, nous, on maintient notre position qui consiste à dire que ça ne sert strictement à rien.
Bon, au moins, c'est clair. Merci. Le contrôle technique, ce sera peut-être pour Fabio Quartararo. Ce serait bien que sa moto y passe en tout cas.
Si
on permet un petit bon mot. Voilà.
T'as pas osé l'affaire avec Eric De Sens. Là, tu fais ton malin.
Avec Eric Dessert, on l'a fait pire, j'ai l'impression, quand même, hein, au niveau de la question. Merci, Sébastien Poirier,
merci
d'avoir été
beaucoup
avec nous, président de la Fédération française de moto. Et l'année prochaine, je l'espère, en tout cas, nous nous voyons une fois par an. Merci d'avoir été dans le studio RMC, ici chez Pramac, l'écurie de Johann Zarco. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Vous entendez certainement les motos derrière nous passer. Nous sommes sur la terrasse, ici au Mans, pour ce Grand Prix MotoGP, le 1000e de l'histoire. On revient dans quelques instants avec une légende de la moto, le roi Ago, le plus grand pilote moto de tous les temps, 15 fois champion du monde, Giacomo Agostini, sera sur RMC. À tout de suite.